Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs. Nous sommes en direct, bien sûr, dans l'after qui continue avec vous tous pendant cette période sans football, 7 jours sur 7, et ce, uniquement à la radio sur RMC. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, avec ce soir Laure Le Payère. Laure, bonsoir.
Ah, bah elle est pas là, Laure.
Bah si, elle est là, tu vas voir, elle va arriver dans quelques instants. Ah, vous avez entendu Daniel. Daniel Riolo, bonsoir.
Salut les amis.
Jérôme Bretagne est là également. Salut Jérôme.
Salut à tous.
Très bien. Ah bon, Laure est-elle arrivée ou pas? Bon, elle arrive dans quelques instants.
Ah bah je croyais que ça marchait bien. En plus, avec son application, elle a voulu faire celle qui était en avant sur la technologie. Ouais, non, mais vous avez jamais essayé avec l'application? Ça marche nickel. Bah, bam, voilà, ça marche plus.
Au lieu de faire le malin, toi, tu devrais nous parler de ton nouvel ami.
Quel nouvel ami?
Comment ça, ton nouvel ami? Ton nouvel ami qui t'a répondu, qui t'a conseillé de confiner ta bouche.
Ah, ton... ta fixette.
T'as pas vu sa réponse.
Ah, Serge Aurier a répondu à Jérôme.
Serge Aurier a répondu à Jérôme Bretagne. Il lui a conseillé de confiner sa bouche, sinon il allait appeler tonton Pat.
Oh. Et pour me mettre un masque. Pour me mettre un masque. C'est bien ça, hein.
T'arrêtes pas de te faire des nouveaux potes, hein, mine de rien.
Ouais. Bah écoute, c'est pas... C'est on est en période de confinement, de masque. Bon, après je pensais pas qu'on pouvait rigoler sur tout, mais bon, apparemment oui. Donc ça m'a bien fait rire. Écoute, il a fallu que je prenne quand même une application traduction, parce qu'il y a énormément de fautes quand même. Donc j'ai même mon application traduction a eu beaucoup de mal.
L'application Bled.
Mais bon, écoute.
Oui, donc c'était la réponse de Serge Aurier à ce que tu as dit hier soir sur le réseau social.
Comme quoi, on est vraiment bien écouté. On est vraiment bien écouté parce qu'on est même écouté en Angleterre.
Laure est là, ça y est. Laure, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Ah,
tu nous entends bien?
Voilà, salut Laure.
Ouais, je vous entends bien. Ouais.
Parfait. Alors. Je peux donc maintenant vous donner le programme. Alors, l'événement ce soir dans l'after, c'est le football d'après le coronavirus. Eh oui, tous les grands championnats, vous le savez, prévoient une crise financière, notamment pour les clubs. Alors comment profiter de cette situation? Est-ce que il faut être totalement alarmiste ou bien est-ce qu'il y a des motifs d'espoir? On peut regarder un peu ce qui s'est passé dans le passé, lors d'autres crises. Qu'est-ce que ça a donné sur le football après? On en parlera tout à l'heure avec Thibaut Leplat, après 23h. On vous attend au 32-16 hein, pour en débattre. Thibaut a écrit un long texte sur le sujet, ce sera très intéressant, vous verrez. Et puis toute l'actu du jour, il y en a plein aujourd'hui de l'actu, actu mercato concernant le PSG qui frétille un peu. Actu Ligue 1 avec l'accord salarial trouvé entre les clubs et l'UNFP, plus notre célèbre chronique Make Ligue 1 Great Again. Hier, on parlait donc des droits télé. Aujourd'hui, on a le nouveau commercial de la Ligue 1, Gérard Lopez, le boss de Lille, qui est parti.
Commercial, je ne sais pas si c'est le bon terme. Hein.
Ouais, alors
c'est le commercial, celui qui va chercher les prêts à la banque.
Faut qu'il vende le produit pour qu'on lui file le prêt quand même, tu vois. Il y a une petite démarche peu commerciale quand même.
D'accord.
Tu vois?
Ouais, ok.
Je sais pas.
Je prends l'appellation.
Quand tu vas demander un prêt à une banque, t'arrives pas en disant salut, c'est moi, filez-moi. Lui,
négociateur, non? Je sais pas.
Puis lui, il veut quand même une somme assez conséquente. Donc, bon.
Ah oui, ça, il va, oui. Quand il emprunte de l'oseille, Gérard Lopez, il emprunte pas 10 balles. Hein.
Non. Ça marche en milliards. Ouais.
Quand il y va, lui, c'est des paxons, il prend.
Donc, on va parler de tout ça au 32-16 avec vous. Sur le hashtag RMC Live, sur Twitter, sur Direct Studio, bien sûr, on vous attend. Et puis, n'oubliez pas Julien Cazard à 23h40 pour notre quiz nouvelle forme. Le tirage au sort a eu lieu, messieurs, dames, ça y est, c'est fait.
Ah bah alors, moi je sais pas.
J'attendais que ce soit d'être avec vous pour pouvoir vous en parler.
Alors, c'est quoi les matchs? Ouais.
Alors, tout ça a été filmé hein, pour pas qu'il y ait de comment dirais-je
de, oui, bien sûr, de triche.
Et la main innocente était Jean-Louis Tour. Voilà.
Oh.
Vachement innocent, Jean-Louis. Donc on a pris, comme on l'a promis hier, les classements de la race. Tête de série numéro 1, Bribois tout en haut du tableau. Tête de série numéro 2, Riolo tout en bas du tableau. Tête de série numéro 3, Jérôme Rotten, milieu de tableau. Tête de série numéro 4, McCarthy. Voilà. Ouais. Et après, c'est dispatché. Donc
dans quelle partie de tableau est Jérôme ? Potentiel demi-finaliste contre moi
ouais,
ou
potentiel demi-finaliste contre toi.
Ah, d'accord.
Ah ouais.
Donc, les huitièmes de finale, c'est Brisbois contre...
Tu t'es fait un tableau sur mesure, déjà, toi.
C'est tirage au sort, les gars. Brisbois contre Max du Standard, en huitièmes de finale. Autant dire que ce sera ce soir, hein, le premier huitième. Voilà.
C'est tous les deux ce soir.
J'ai un Dimeco contre Diaz. Celui-là, on le fera sans doute jeudi. Dimeco contre Diaz, vous voyez qui, vous ?
Eric, il est imbattable dans les quiz.
Très bien.
Eric, ouais.
Méfiance.
J'ai un duel Périnel, Jérôme Thomas. Troisième, huitième de finale. Peut être serré celui-là.
Qui compte Jérôme ?
Damien Périnel.
Après,
j'ai Ducrot McCarthy.
Ouais.
Jonathan, convaincu qu'il va emporter.
Pierrot, sur les deux, trois derniers, il s'est mis
un peu trop confiant, Jonathan, je pense.
Exactement,
il
a raison.
Dedans, Pierrot. S'il veut bien se bouger le cul, Pierre, il peut être.
Surtout que.
Attention,
surtout que Jonathan fait les after Ligue 2. Donc là, il va falloir. Est-ce qu'il est capable tout de suite de viser le haut du tableau de Ligue 1 ? Je suis pas certain.
Attention, l'adversaire de Jérôme Rantaine sera Nicolas Villas.
Là, c'est dur.
C'est du beurre. Franchement, c'est du beurre pour Jérôme.
Nicolas Villas.
Beurre pour Jérôme.
Je pense que ce duel pourra se faire peut-être vendredi, là. Vendredi, tu fais Rotten Régal, donc tu ne seras pas dans la
Non, vendredi, je ne suis pas là. Ouais.
Bon, on va l'organiser un autre jour. Après, on a Laure Le Payeur face à Frédéric Piquionne.
C'est gagné pour Laure, les yeux fermés.
Bon, très bien, on verra. On a un duel de haut niveau entre Lionel Charbonnier et Nicolas Jamin. Voilà. Et le dernier huitième de finale opposera Daniel Riolo à Paul Vecchio, notre réalisateur.
Ah oui, Paul y joue aussi.
Bah ouais, on se dit, attends, autant prendre les gars qui sont
Paulo,
là.
Ouais. Problème.
C'est des vrais de l'after, quoi, tu vois. Voilà. Donc on organisera ça tous les soirs et on verra qui sera. C'est comme la coupe, il y a le championnat toute l'année, la race, et là, il y a la coupe, quoi.
Normalement, la logique, les têtes de série devraient passer sans problème.
Ouais, a priori.
Peut-être Jonathan, Jonathan en Pierre, c'est le match le plus accroché. Le reste.
Très bien.
Pas trop l'utilité de faire les matchs.
Moi, j'ai un problème avec Max, c'est qu'il est
carrément
il
pas
est
d'utilité.
En panique. Donc, pour tout à l'heure, on verra ce qu'il est capable de faire. Allez, on y va. On va démarrer par l'actu PSG. Parce qu'il y a pas mal de choses, mine de rien, à relayer ce soir. Il faut que l'after réagisse.
Il y a beaucoup de choses qui t'ont excité, je le sais.
Alors, prenons dossier par dossier. Alors déjà, le truc le plus évidemment sans suspense, c'est Cavani, fin de contrat. On voit pas comment il pourrait re-signer. Et aujourd'hui, figurez-vous que Christian Rodriguez, vous savez, l'ancien joueur du PSG, l'oignon. Christian Rodriguez.
C'est voilà, mon karting.
Celui qui a pris la place de Jean Bretagne.
Le karting de Jean. Ouais,
mon karting. il fait partie de la liste de karting, oui. Ouais.
Tiens d'ailleurs Jérôme, pour information, on m'a envoyé un SMS aujourd'hui, quelqu'un que j'avais perdu de vue, qui m'a dit mais Jérôme, il est vraiment sérieux quand il pense que Monterrebio est sur karting?
Bah oui. Oui. Qui c'est qui t'a envoyé ça?
Pour un pote que j'avais perdu de vue, mais du coup le gars il était choqué quoi.
Pourquoi, comment il pouvait être choqué par ça? Je comprends pas.
Bah, je sais pas, peut-être qu'il a gardé un souvenir ému de Monterrebio, tu vois.
Non mais Monterrebio un bon joueur, mais c'est pas comparable avec Jérôme. Et ceci dit,
déjà,
en ayant le plus grand respect pour la carrière.
Dans
le plus grand des respects, genre à un moment il faut juste.
Voilà, faut être lucide.
Oui, c'est tout. Quoi.
Donc, je reviens à mon ami l'oignon, Christian Rodriguez, qui a dit, ouvrez les guillemets, j'ai la permission d'Edinson pour le dire, il ira à Peñarol. Donc, Peñarol, le grand club uruguayen, donc de Montevideo. Donc, voilà ce que dit aujourd'hui.
C'est formidable.
Voilà ce que dit aujourd'hui Christian Rodriguez.
S'il a dit qu'en plus il a eu la permission et qu'en plus c'est Peñarol, qu'en plus c'est en Uruguay, que c'est le retour au pays, qu'est-ce que tu veux qu'on réagisse à ça? C'est formidable. Si c'est son choix à Cavani, tant mieux, bravo, au revoir et merci monsieur.
Après, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire une saison encore ou deux dans un grand club européen?
Écoute,
s'il n'a pas envie, Gilbert, il a
tout dépend de son choix.
Tu veux trouver des polémiques partout, Gilbert. S'il a envie d'y aller, il aurait quand même pu encore.
Non, mais en fait,
Gilbert. Il n'a pas envie, il est bon lui.
Ou alors?
Non mais c'est ça, c'est surtout quand tu arrives en fin de carrière, t'as trois choix qui se proposent à toi, c'est soit le choix financier, et il y en a qui optent pour faire un max d'argent, souvent dans une destination exotique, soit le choix sportif, t'as envie de te lancer un dernier défi, et soit le choix affectif. Et je pense que Cavani, il est dans ce cas-là. On sait que ça soit en Italie ou que ça soit en France, il a souvent souffert de l'éloignement de sa famille, et je pense que pour lui, ça serait une façon d'allier entre guillemets un environnement favorable et puis d'un autre côté, bah, continuer quand même sa passion pour le football. Et je pense que dans ce contexte, il pourrait être épanoui, donc c'est pas complètement fou.
Bah oui, ouais, et puis il n'y a pas de polémique, Gilbert, à faire là-dessus, parce que.
Ah non, mais l'idée, façon... c'est pas de faire des polémiques de tout. Moi, je vous donne aussi les informations qui ont réagi.
Je pense qu'il était prêt en effet à relever un dernier challenge à l'Atlético Madrid au mercato d'hiver, parce qu'il jouait pas assez à Paris, parce que il n'était pas considéré comme il le voulait. Ça s'est pas fait pour X raisons. Derrière, il a rejoué en plus. Il est repassé devant Icardi. À sa grande surprise, je pense déjà. Donc il voulait bien finir là.
Il a bossé et puis.
Je pense que c'est à sa grande surprise, dans le sens où sur les premiers mois, même s'il y a eu des blessures, Icardi s'était quand même installé et il y avait dans la hiérarchie, c'était très clair. Ça s'est inversé, tant mieux pour lui. Après, quand ça s'inverse comme ça, c'est que il y a déjà et je parle en connaissance de cause, quand tu vieillis, que t'es en fin de carrière, psychologiquement, c'est la fatigue la plus compliquée en fait à gérer. Et je pense qu'il a mis beaucoup de choses dans ce mercato d'hiver. Il a été extrêmement déçu de pas partir. Derrière, il s'est remis au boulot, il est repassé devant Icardi. Donc c'est aussi beaucoup d'énergie mentalement, et je pense qu'il n'est pas capable du tout de relever un challenge en Europe relever un challenge en Europe, c'est repartir dans peut-être un autre championnat. Alors peut-être l'Italie aussi qui connaît, mais si c'est l'Espagne par exemple, il va redécouvrir un autre championnat à l'âge qu'il a. Si psychologiquement il commence à fatiguer, je pense que le choix il est 30, très clair.
Il a 33, il est pas si vieux. Hein.
Oui, mais bon, alors à 33, il y a plein de joueurs qui...
S'il a envie de retourner en Uruguay, s'il a envie d'aller jouer à Peñarol, je ne sais pas pourquoi vous vous prenez la tête à dire il pourrait relever un challenge en Europe, il pourrait faire ceci, il pourrait faire cela, mais vous avez le droit de le laisser libre de son choix quand même, non ?
Non, mais tout à fait. Mais après, moi, je le
laisse le libre, j'aime Daniel.
J'aime bien Cavani, j'aimerais bien continuer à le voir. Moi, les matchs de Peñarol, je les vois pas. Si demain il va jouer à la Fiorentina ou à Valence, je le verrai.
Il est quand même formidable, Gilbert. S'il a pas envie, il a envie de rentrer chez lui, tu vas lui dire, hey, Coco, moi j'aime bien te voir jouer, tu veux pas rester en Europe.
Bah, non, mais je comprends même pas ce débat. J'ai bien aimé parce qu'on le voyait.
Je comprends pas ce débat, mais donc voilà. Mais si, ok, très bien.
Bon, ça m'embête de perdre Cavani.
Eh ben écoute, c'est pas grave, tu passeras un autre joueur.
Peut-être qu'il est conscient aussi qu'il peut pas atteindre son meilleur niveau, et c'est aussi une façon de bien finir sa carrière en retournant au pays dans un club qui est important.
Alors, autre, puisque tu parlais d'Icardi, info Icardi également. Figurez-vous que Leonardo a parlé avec Wanda.
Ah. Mais ils s'entendent plutôt bien.
Bon alors, du coup, de quoi ont-ils parlé, à votre avis?
De l'éventualité
le PSG, en fait, la situation est simple. Le PSG a une option d'achat qui avoisine les 65 millions d'euros. C'est quand même pas rien, 65 millions d'euros pour Icardi. Alors, le PSG a un droit prioritaire, en fait, hein, dans cette option d'achat. Donc, en gros, c'est Paris qui dit on prend, on prend pas, et après, les autres peuvent s'exprimer. Donc, Leonardo a parlé avec Wanda. Alors, sauf que Wanda, elle n'est pas hyper chaude. Wanda, elle dit, ouais, mais bon, quand même, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Quelle va être l'équipe? Avec Tourelle, ça se passe pas très bien ces derniers temps, hein, ça vous a pas échappé, entre Icardi et Tourelle.
Je comprends pas pourquoi tu dis que ça se passe pas bien entre Tourelle et Icardi.
Parce que c'est une information que je te donne. Suite à une enquête RMC Sport, ça se passe pas bien entre Icardi et Tourelle.
Mais de toute façon, ça peut pas bien. Gilbert, ça peut pas bien se passer
avec Cavani avant. Donc, de toute façon, Tourelle, il n'est pas dit qu'il reste au PSG l'année prochaine.
C'est comme n'importe quel joueur. Quand un joueur était titulaire et il devient remplaçant, forcément, les relations, elles sont un petit peu tendues avec son entraîneur, avec le staff. Et ça me paraît logique. Donc, son épanouissement n'est pas le même aujourd'hui. De toute façon, ça se voit quand il est sur le banc. Ça se voit quand il rentre, il est moins performant qu'il l'était sur la première partie de saison.
Mec, s'il peut après, pas bien vivre la concurrence au bout de même pas 6 mois passés au PSG, faut surtout pas qu'il reste, hein. Parce que ce genre de caprice, et puis de toute façon on connaissait l'élément Wanda, on connaissait le problème que ça pouvait poser et son sa réticence à ne pas être considéré comme la vedette et tout ça. Donc les problèmes avec Icardi, on les connaissait. Donc peut-être que le PSG doit se dire, s'il nous fait déjà son premier caca nerveux là, il faut pas le garder, quoi.
Laure.
C'est la question que j'allais poser, Gilbert. Est-ce que le Paris Saint-Germain a aussi cette vraie volonté de lever cette option d'achat? Parce que est-ce qu'il y a des discussions, mais où est-ce que vraiment Leonardo a exprimé l'envie de prendre dans ses rangs Icardi de façon définitive?
Ah bah oui, le PSG a envie.
Ou est-ce que tu t'es dit je vais recruter un 9 un peu plus fort? Il y en a aussi des 9 plus forts.
Ou alors ils en veulent deux. Tu perds Cavani, il en faudra sans doute deux.
Ouais, déjà si t'arrives à garder Icardi dans le sens, mais après Icardi, je pense que c'est un projet de club avec tout ce qui se passe actuellement avant ce putain de virus là. Je pense que le PSG avait vraiment des options certainement différentes pour l'année prochaine, c'est-à-dire vendre Mbappé en priorité et peut-être garder Neymar, et dans ces cas-là, t'as d'autres choix qui doivent se faire sur le front de l'attaque. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, Neymar, Mbappé, à mon avis, ils vont rester. Cavani, va s'en aller. Et la possibilité de garder Icardi, c'est quand même une aubaine pour le PSG. C'est, même si c'est de l'argent, c'est 65 millions d'euros. Franchement, pour un buteur comme Icardi, je dis pas que c'est cadeau, si mais presque, quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est
alors,
vrai,
c'est vrai. Tiens, pour info, ils sont avec Wanda.
Ouais, et puis surtout, il y a quand même un truc. Surtout, il y a un truc, c'est que Mbappé, lui, il dit qu'il veut jouer en pointe. Mais pour moi, il est uniquement performant quand il a en pointe avec lui un joueur de la valeur d'Icardi.
Parce que
l'association fonctionne bien, mais à Mbappé seul, ça peut pas être ton numéro 9. Et si Cavani s'en va, dans ton effectif, t'en as pas d'autre de vrai numéro 9. Et l'association Mbappé-Icardi, on l'a vu, a très bien fonctionné, mais chacun a ses propres caractéristiques. Et il faut aussi que tu aies cette ambition dans le développement de ton jeu.
En plus.
Exactement, c'est une denrée rare. Et c'est pour ça que 65 millions d'euros, c'est pas si élevé. Parce que sur le marché, il n'y a pas vraiment pléthore de numéro 9 à acheter. Hein.
Après, s'ils veulent s'en séparer et se taper à Jork, après, c'est leur choix. Mais bon,
Jork, il a sa truquette sur le marché, mon gars.
Il est bien avec Titi Loret. Ouais.
Bon, en tout cas, Wanda, Icardi, Mauro Icardi, Wanda et les enfants, eux sont partis en confinement au bord du lac de Côme. Voilà.
Bon, c'est un très bel endroit, ils ont bien choisi.
Exactement, donc ils sont bien, ils sont là-bas. J'arrive maintenant au dossier Mbappé. Pourquoi ? Parce que ce matin, Mbappé fait la une de As, qui est un journal sérieux. Hein. As, ils sont pas là juste pour faire. Bah oui, c'est quand même sérieux, Daniel.
Si tu le penses,
c'est sérieux en Espagne. Et donc, As fait sa une avec Mbappé en disant Mbappé, objectif 2021. En fait, la crise du coronavirus a changé les plans du Real qui voulait tout faire pour avoir Mbappé pour la rentrée 2020, là, pour la reprise 2020. Mais déjà, la reprise 2020, on ne sait même pas si on aura une, déjà, de toute façon. Donc le Real, ce sont les infos de As, dit, bon, très bien, on va tout faire pour le recruter, mais en 2021, objectif 2021 pour Mbappé, dit aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il est sous contrat jusqu'en 2022, Mbappé. Donc, il lui resterait un an de contrat s'il partait en 2021. Donc, après, y a-t-il une stratégie à adopter de prolongation, pas prolongation?
Il n'y a pas de stratégie, Gilbert. Gilbert, il n'y a pas de stratégie. Moi, je me suis mouillé il y a quelques semaines parce que je le sais de source sûre que Mbappé, c'était quasiment fait au Real pour l'année prochaine. Alors, avec ce qui se passe, c'est sûr, comme le dit certainement, ils sont certainement bien renseignés aussi. Ça peut reculer, en effet, l'arrivée d'Mbappé, mais en aucun cas il y aura une prolongation de contrat de Mbappé au PSG. Du moins, ça sera un accord entre eux, parce que vu que le PSG était d'accord pour s'en séparer là, à mon avis, c'est juste une question de temps. Et avec ce qui se passe, en effet, savoir quand tu vas reprendre la saison, déjà personne le sait. Donc c'est aller trop vite en besogne et leur laisser un an de plus pour récupérer Mbappé, ça me paraît pas surprenant.
Tiens, on va accueillir Paul au 32-16 qui est supporter parisien. Salut Paul.
Salut messieurs, ça va ?
Ça va et toi ?
Salut Paul.
Salut Paul. Salut Paul.
Ça va pas mal. Déjà, je voulais remercier, un petit aparté, je voulais remercier Jérôme pour avoir remis en place le fumeur de chicha. C'est cool.
Merci.
Parce qu'au cas où il en avait un doute, personne ne veut plus à Paris.
Tu parles de Serge Aurier, là, en l'occurrence.
Donc, ouais, je sais pas trop toi de qui tu parles, mais moi, je parle du fumeur de chicha.
Oui, il a un nom, Paul.
Non, mais c'était drôle et c'était sympa. Bref.
Alors, sur les infos du soir, sur Cavani, Icardi et Mbappé, là, tu dis quoi, toi ?
De toute façon, Icardi, on sait très bien que Déjà, ça va être conditionné à le quid de Cavani. Vanda, je pense qu'elle arrêtera de saouler son monde quand on sera sûr que Icardi sera le neuf star du PSG de l'année prochaine. Et je pense que quoi qu'il arrive, si Cavani prolonge pas, il y a moins de risques qu'il parte, quoi. Ça, c'est sûr.
Bon, très bien. Pas rien de plus, Paul.
Pour le reste, moi j'aurais préféré que ce soit sur un des trois, j'aurais préféré que ce soit Neymar qui parte, comme pas mal de Parisiens, je pense.
Ouais, mais ça c'est parce que le dossier Neymar, il est compliqué dans tous les cas parce que bon, on sait ce qu'il a mis en place l'année dernière pour partir. Il est resté aujourd'hui. Je pense que même lui s'est fait à l'idée de rester au Paris Saint-Germain. Alors il le fait avec beaucoup de réussite. Hein. Franchement, il s'est remis dans le droit chemin. Alors il y a eu quelques erreurs ces derniers temps, mais sinon le niveau de jeu qu'il avait atteint il y a pas si longtemps que ça était quand même fantastique, donc comme quoi il est pas si malheureux à Paris,
sur le niveau qu'il a affiché ces derniers mois, je suis plutôt d'accord, mais c'est tout.
Ces derniers mois, vous allez vite en besogne quand même. Hein. Le match aller à Dortmund, c'est pas si vieux que ça, c'était une catastrophe.
Non, bon, hein. C'est un match.
Il a fait un bon match, bah oui, mais donc il en a fait un mauvais, un bon. Ça veut dire 50-50.
Il y en a eu avant des bons.
Bah, Jérôme, franchement, c'est du 50-50 ou au mieux, je te donne un 60-40. Faut pas non plus s'enflammer. On attend un petit peu plus de Neymar, si tu veux.
Ah
dire.
Oui, non, mais
un mec de ce niveau, t'attends un peu plus quand même.
Je t'ai jamais dit le contraire, Daniel, là-dessus.
Ouais.
Hein. T'as
remarqué. Sur Neymar, moi, je veux bien. C'est toujours, on dit toujours, vous êtes très sévère, machin. Moi, tu sais ce que j'aime, c'est quand des gens de son pays et des grandes stars s'expriment. Tu vois. Et quand j'ai vu Zico, qui est quand même pas le dernier des derniers. Tite, c'était même avant. Mais le dernier en date, c'est Zico. Dire, j'ai croisé Neymar, je lui ai dit d'être plus concentré, de faire attention à sa carrière, de faire ceci, de faire cela. Ça me fait plaisir parce que je me dis, quand toi tu le critiques et qu'on dit t'es trop dur, c'est une star, il faut pas ceci. Ben moi, être en phase avec son sélectionneur, être en phase avec une personnalité comme Zico, je me dis que finalement, j'ai pas si tort que ça depuis des mois quand je parle de lui. Parce que si c'est pour reconnaître que c'est un joueur extraordinaire, il n'y a pas de débat, il ne faut pas discuter de ça, on ne parle pas de ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, il est au PSG, que contre Dortmund, il a été le match retour décisif, bon, et même à la limite, je peux même mettre le match aller où il n'a pas été bon dedans, parce que finalement, son but, quelque part, devient décisif sur l'ensemble des deux rencontres. Ouais. Pas de problème là-dessus. Mais ça fait maintenant sa troisième saison. On attend encore plus. On attend vraiment qu'il monte et tout, et qu'il se calme en dehors, qu'il gère un petit peu mieux sa vie pour emmener le PSG au plus haut. Ce sera peut-être cette année.
Et c'est pour
dans
ça,
cette Ligue des Champions qui va
Daniel.
Être bricolée autrement.
Et
on l'espère. Mais je ne me mets pas encore à genoux devant lui. Loin de là, quoi.
Mais c'est pour ça, Daniel, Neymar, on a le sentiment qu'il va rester au Paris Saint-Germain, parce qu'en effet, et t'es très juste quand tu dis qu'il est décevant depuis son arrivée, du moins surtout sur les deuxièmes parties de saison. Là, on avait l'impression que ça allait mieux, malheureusement, obligé de s'arrêter, et que sa valeur marchande a chuté, et que le PSG se retrouve un petit peu dans l'impasse de ce côté-là. Et même lui, de toute façon, lui, il s'est fait à l'idée aujourd'hui que de toute façon, il y aura aucun club qui mettra autant d'argent que le PSG a pour le récupérer.
Ça va être dur, donc, effectivement, ça va être dur.
Donc il va rester. Et puis bon, Daniel, je veux dire, s'il est droit dans ses bottes, et si en effet il arrive à corriger, à essayer de faire un petit peu moins d'erreurs dans sa vie privée, même si ça j'en doute, je pense que ça sera bénéfique pour le club, pour lui, et il sera forcément performant.
Laure, pour conclure, vas-y.
Oui, par rapport à tout ce que vient de dire Daniel, moi je le rejoins parfaitement. Et il y a une phrase, il y a pas longtemps, que Tite a dite, c'est que Neymar c'était un joueur exceptionnel, et ça je pense qu'on s'accorde tous pour le dire, mais qu'en fait à chaque fois il se rend pas indispensable. Il est pas indispensable, et par rapport à tout ce que Daniel a pu évoquer, c'est que effectivement tout ce qui gravite autour de lui, son comportement, c'est néfaste et ça peut nuire à un groupe. Et quand ça vient justement de la part d'un sélectionneur, je pense que c'est quelque chose quand même d'assez fort. Et cette phrase, moi, elle m'a particulièrement marqué.
Mais t'as raison, Laure. Mais t'as raison, Laure. Mais même dans la crise actuelle, le peu d'image qu'il renvoie, avouer que c'est quand même un petit peu pénible, quoi. Tu dis, est-ce que t'es obligé? Tu vois, c'est pas, on n'a pas envie de lui dire, c'est grave, c'est pas bien, j'ai pas envie de taper, t'as envie de lui dire, est-ce que vraiment tu vis dans un monde parallèle? Est-ce que vraiment t'es obligé de renvoyer ces images-là? Alors, ok, il peut dire, mais moi, je m'en bats les, je m'en fous de vous, de votre avis, je fais ma vie, vous n'êtes que des ronchons, des
gros lions, des machins.
On peut dans la vie envoyer tout le monde chier parce qu'on a l'oseille, parce qu'on a la, parce que c'est vrai que c'est une tendance, cette mentale, que moi j'appelle la mentale racaille. Genre, je me bats les burnes de tout, à partir du moment où j'ai l'oseille, j'ai le pouvoir, je fais ce que je veux et tout. Ok, c'est une mentalité. Je l'admets, elle fait partie de notre monde. Bon, je me demande, est-ce qu'il est réellement obligé, néanmoins, de se rouler dans cette mentalité-là en permanence, de renvoyer cette image un petit peu négative du mec qui vit dans un autre monde et qui en a un petit peu rien à foutre de tout ce qui se passe sur Terre, quoi. Bon, voilà, c'est tout. C'est tout. Maintenant, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est sa vie, quoi.
Après, moi, je voulais juste répondre à Laure sur le fait indispensable ou pas. Bon, ce qu'il fasse des choses dans sa vie privée, ça le regarde. Et là, je suis assez d'accord avec Daniel sur l'image qu'il renvoie actuellement dans cette période de confinement. Mais bon, ça peu importe. C'est une petite aparté. Il se rend quand même indispensable quand il est sur le terrain. Je suis désolé. Au Paris Saint-Germain, quand t'as Neymar, le Paris Saint-Germain est plus fort avec Neymar que sans Neymar. Et que dans tous les cas, il peut faire le pont dans sa vie privée.
Jérôme,
ouais, très souvent.
Ah bah du coup ils se sont arrêtés tous les deux.
Ouais, exactement. Il y a un petit décalage avec.
Non mais c'est ce que je dis, c'est que tout dépend la volonté qu'il met dans sa rencontre.
Ouais.
Tout dépend la volonté qu'il met dans sa rencontre parce que parfois il est capable justement de planter l'équipe collectivement.
Mais c'est très rare.
Comme on l'a vu au match aller à Dortmund. Ouais, mais ça arrive quand même et les grands joueurs ils doivent pas se planter comme ça dans des grands rendez-vous. Je suis désolée, donc par rapport au fait
c'est
que
sûr,
ce soit
je me plantais un peu
exceptionnel, et bah pour moi il doit répondre beaucoup plus.
À tout de suite, on va parler du reste de l'actu, encore un peu de mercato, vous allez voir, Gérard Lopez donc qui va aller chercher de l'argent pour la Ligue 1. C'est marrant parce que il y a 6 mois de ça ou un an de ça, tout le monde se moquait un peu de lui. Gérard Lopez, c'était un peu le nouveau arrivé, le bijou, se faisait un peu allumer par tout le monde, genre lui il connaît pas le foot, d'où il vient, rappelez-vous. Et ben maintenant
c'est quoi ce projet?
Là en l'occurrence c'est pas connaître le foot, hein, c'est être capable de trouver des mecs qui prêtent de l'oseille, et ça c'est sa spécialité. Parce qu'il fait que ça.
On en parle et on vous explique tout dans quelques instants dans l'after.
RMC.
L'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten, avec Laure Le Payeur. Et bien sûr, nos présidents de Ligue 1 toujours aussi actifs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent make Ligue 1 great again.
D'autres voudraient avoir un montant plus pour plus.
L'équipe de France et la Coupe de France.
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
To make America great again for all Americans.
C'est un provocateur, on sait très bien.
Il faut aller le plus loin. Pourquoi pas vraiment le plus loin.
Au revoir.
Alors oui, Gérard Lopez, président de Lille, donc, est chargé d'emprunter un très gros montant auprès des banques ou bien de fonds de pension pour assurer la pérennité des clubs de Ligue 1. Alors voilà le projet. Il cherche entre 300 et 500 millions d'euros. Alors il dit que cette somme doit être une sorte de parachute, un trésor de guerre, qu'on pourrait débloquer à l'issue d'un vote effectué par les clubs dans une situation comparable à celle d'aujourd'hui. En gros, une ligne de crédit qui renforcerait la Ligue et le foot français. Attention, il y a toujours un revers quand on emprunte. Là, on aurait un taux d'intérêt qui se situerait autour de 8%. Pas rien, quand même. Et en fait, ça coûterait à chaque club, parce qu'après, évidemment, cet argent, il faut bien qu'on rembourse, ça coûterait à chaque club autour de 3 ou 4 millions d'euros par an. Alors, excusez-moi, mais un petit club qui a un petit budget là, genre de 20 millions, il va dire, attends, vous êtes gentil, vous prenez déjà 3 millions pour un truc.
Je vois rien d'extraordinaire dans la mission qu'on lui a confiée et en quoi c'est formidable. Alors le fait que lui soit habitué à lever des fonds et qu'en 3 coups de fil il puisse trouver de l'oseille, ok, très bien, mais là, vu les conditions, et puis attends, il emprunte pas à la banque du coin, hein, il emprunte à des requins.
C'est
requin qui l'emprunte. S'il y a un moment t'es pas capable de rembourser, les mecs prennent le contrôle des clubs et ils ramassent tout, quoi. Ok, on lui a demandé à lui, il s'est fait aider par Loïc Ferry, un autre requin. Les relations de ces gens-là, c'est du business de haute voltige. Et parfois, quand tu retombes dans la haute voltige, tu te casses bien la gueule, quoi. Mais la mission, Gilbert, il faut, elle est confiée. En fait, il y a donc par rapport à celle dont on a parlé hier soir de Nasser. Mmh. Nasser, il négocie pour que Canal paye les droits télé. Et c'est au cas où Canal paye pas et on est dans la merde, machin, Lopez, il fait en gros la deuxième mission, va trouver de l'oseille par des gens qui vont nous prêter pour garantir, il s'occupe de la roue de secours. Mmh. La voiture, c'est Nasser, la roue de secours, c'est Gérard Lopez. Mais attention à cette roue de secours, elle pourrait coûter très très cher. Limite, il vaut presque mieux pour la Ligue 1 qu'on n'ait pas recours, aux emprunts de Gérard Lopez, parce que Gérard Lopez, tu fais bien de le rappeler la dernière fois, mais il s'en est bien tiré au final avec Lille et tout, mais quand il est arrivé, c'était couteau sous la gorge. Hein, à un moment, quand il est passé devant la DNCG, quand le club était pas bien, menacé de descendre, derrière, il finissait à poil. Hein, et Lille, c'était fini. Hein. Donc, c'est toujours des paris très très risqués. Hein, c'est du gambling. Hein.
Oui, alors d'autant mais à l'arrivée, tu l'as dit, c'est vraiment c'est la route de secours. S'ils n'arrivent pas à trouver un accord avec Canal et Bein pour les.
Lui, il ira chercher et emprunter au requin, quoi. Sauf que le requin, quand tu lui rends pas bien comme il faut, il te bouffe le bras après.
Le requin a 8% d'intérêt.
8%, c'est quasi un usurier, le mec.
Qui m'appelle moi, je vais lui reprêter.
Je leur fais à 10. Ils vont régler les problèmes de trésorerie des clubs, mais le problème c'est que sur le long terme, il y a des clubs qui vont s'endetter. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est que aussi dans ton budget, parfois tu te fixes, il y a certains objectifs. Et s'il y a des clubs qui atteignent pas leur objectif sportif, ils vont se retrouver dans une situation financière. Imagine un club contracte ce prêt, il doit rembourser 3 à 4 millions. Généralement, en plus, les plus petits clubs, ils ont un solde positif, mais ils n'ont jamais vraiment des millions d'euros en plus. C'est plutôt des milliers et pas des millions. Si derrière un club subit une descente, par exemple, mais comment il fera pour rembourser ces 3 à 4 millions d'euros par an? Ça me paraît être une solution extrême.
Les mecs viennent et prennent le club, carrément. Ils prennent les murs, ils prennent tout.
Bah oui, non mais Laure a raison. C'est pour ça que moi j'espère qu'il va aller emprunter au Crédit Agricole et qu'il ira pas voir le fonds de pension Vautour qui aujourd'hui.
Bah lui ne bosse qu'avec ça. Hein. Il bosse avec Elliott, avec les mecs qui bossent avec Milan, qui ont récupéré le contrôle de Milan d'ailleurs, et on regarde le bordel que c'est. Donc faut se méfier. Quand même.
C'est quand même pas anodin. Moi, je sais pas. On envoie à chaque fois des gens là pour représenter les clubs. À chaque fois, il y a des trucs à dire sur eux. Nasser El Khelaifi, on en parlait hier.
Et Gilbert, je crois que tu te rends pas bien compte. Hein. Ça fait juste que 14 ans que je te dis que le foot français est dans la merde et géré bizarrement. Moi, je sais pas. Je pense que tu me croiras quand tout le monde sera dans le caniveau.
Moi, j'ai envie de lancer un appel à nos amis les Pinots, tu vois. Parce que les Pinots. Ils savent ce que
mais
c'est.
Les Pinots mènent leur vie, mais les Pinots mènent leur vie, ils en ont rien à foutre. Ils gèrent leur truc.
Le foot, là, au lieu de rester à Rennes, là, venez un peu aider, là, venez dans les réunions. François Henry, viens. Toi, tu peux.
Ils ont pas envie. Si ça les intéresse pas, ils gèrent leur club et puis voilà.
Bah, ils adorent le foot, les mecs.
Bah ouais, mais
pourquoi ils s'impliquent pas un peu plus? Moi, j'aimerais bien qu'ils s'impliquent un peu plus. Parce que quand François-Henri Pinot arrive devant une banque, je pense que tu l'écoutes un peu plus que Gérard Lopez, tu vois.
Oh, Gérard Lopez, il te lève de l'oseille sans problème.
Bon, bah écoute, j'espère qu'il y arrivera et que ce sera pas des conditions compliquées pour les clubs de Ligue 1. On verra. Voilà en tout cas pour cette info-là que je voulais qu'on partage. Juste, je vous ai promis 2-3 infos mercato encore. Sachez quand même que Ben Arfa, qui est quand même pour l'instant à Valladolid,
a été
étincelant parce qu'il n'a même pas joué un match entier. Figurez-vous que la Sampdoria le veut. La Sampdoria de Claudio Ranieri insiste. Ranieri dit: moi je veux Ben Arfa. C'est la Gazzetta dello Sport qui l'explique aujourd'hui. Donc il a signé que pour 6 mois en Espagne, hein. Donc bon, la saison, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment c'est le flou, mais enfin la Sampdoria s'intéresse de près à Tem Ben Arfa. Je voulais
les rumeurs de transfert où s'intéresse machin, alors qu'on sait même pas quand une saison va commencer, va se terminer, quand l'autre va reprendre et tout. Je sais pas pourquoi, mais moi le mercato, ça me paraît être complètement virtuel.
Ouais, mais Daniel, vu que les clubs et les entraîneurs, ils ont rien à foutre aujourd'hui. Voilà.
Non, mais t'as raison, bien sûr.
Et les joueurs, c'est pareil.
Je disais, moi, à mon compte perso, ça me paraît complètement hors du temps.
Ouais, non, mais c'est toi qui as raison.
Bien sûr.
C'est sûr que là, c'est hors du temps. Déjà, il y a plein de choses qui sont hors du temps avec Hatem Ben Arfa. Il est parti. T'as l'impression qu'il joue plus au football. Il vient dans un club. Il a fait même pas un match entier. Derrière, il y a ce confinement. Donc, forcément, pas d'entraînement. Mais tu vas le retrouver dans quel état, Hatem? Moi, je l'aime bien, mais.
En même temps, lui, il a l'habitude de pas s'entraîner. Hein,
oui. Ouais, mais il est inapte à jouer au niveau.
L'habitude de laisser les grandes périodes d'inactivité.
Non, c'est sûr. Non, mais t'imagines que là, si tu rajoutes celle-là encore, allez, tu comptes même pas son arrivée à Valladolid. Mais Ranieri connaît le football quand même. Il demande beaucoup à ses joueurs. Hein, que Ranieri, même s'il est vieux, je pense que les méthodes sont toujours les mêmes. Et quand tu connais les méthodes de Ranieri, comment tu veux que Hatem Ben Arfa
ouais, on n'est même pas sûr ça, de ces trucs-là. La simple veut, Ranieri le veut. Moi, je sais même pas.
Oui, je suis d'accord avec toi.
En revanche, il y a un journal turc aujourd'hui qui annonce que Fenerbahçe veut Laurent Blanc comme coach.
Ah d'accord, ça, oui, ça c'est effectivement.
Voilà.
Écoute, tant mieux pour lui hein, si ça peut se faire. Non, il faut qu'il ait envie d'y aller.
Dans quelques instants, dernier dossier actu du jour, l'accord entre les clubs de Ligue 1 et l'UNFP sur le salaire des joueurs de Ligue 1. Je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Pierre Ducrot n'est pas là ce soir. Hein, donc,
oh merde, quand il faut parler Moulaga, c'est lui.
Oui, mais il a quand même envoyé un message en disant « Ouais, que Daniel regarde ça, c'est super bien fait, bravo la Ligue 1 et l'UNFP. »
Tant mieux s'ils ont réussi à faire quelque chose de bien. Hein. Moi, ce que je disais, c'est que j'attendais que ça arrive. Donc c'est arrivé, tant mieux.
On vous explique tout dans quelques instants dans l'after. Et bien sûr, le 32-16 est ouvert pour débattre avec
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit avec Laure Le Payeur, avec Jérôme Rotten, avec Daniel Riolo. Après 23h, on parlera de l'après-coronavirus. Que va changer le coronavirus sur le terrain? Vous verrez que Thibault Leplat, qui sera avec nous, a compilé quelques exemples concrets de sortie de crise dans d'autres contextes qui sont très intéressants. Alors, la Ligue 1 a négocié. C'est en fait ce que nous annonçait Philippe Piat la semaine dernière. Rappelez-vous, hein, il était avec nous dans l'after. Il a dit oui, il y a un truc qui va sortir la semaine prochaine. On est en train de discuter et tout. Donc ça y est, c'est fait, c'est sorti. Alors quel est l'accord qui a été trouvé? Pas de baisse de salaire, mais un décalage dans le temps selon un barème par tranche de salaire. Vous me suivez jusque-là? Je vais essayer de...
Oui.
Bon. Donc en gros, accord trouvé. Alors comment ça s'est passé? Avant que je vous explique, il y avait un petit groupe de présidents le président en ce moment, il s'organise par petits groupes, hein, vous avez bien compris. Là, c'est un groupe dit le groupe Dialogue Social. Voilà. Alors, dans ce groupe Dialogue Social...
Il y avait qui? Vas-y, dis-nous.
Il y a Jean-Pierre Caillot, de Reims.
Ouais.
River, de Nice. Ouais. Olvec, nouvel arrivant à Rennes.
Ouais.
Francis Graille, patron d'Auxerre. Voilà, ça, c'est les quatre. Et donc, ils ont discuté avec l'UNFP et Philippe Piat. Et donc... Ce qui est sorti de leur discussion, c'est donc un décalage temporaire du paiement. Donc, ça ne veut pas dire que les joueurs font une croix sur leur salaire, mais qu'ils font une croix temporaire pour être ensuite payés plus tard. On a bien compris, comme la Juve en Italie, en l'occurrence. Et donc, ils se sont dit, on va faire ça tranche par tranche. C'est-à-dire qu'un joueur qui gagne moins de 10 000 euros par mois, on ne touche pas son salaire. Un joueur qui gagne entre 10 000 et 20 000, on parle sur le brut, hein, évidemment. Un joueur qui gagne entre 10 000 et 20 000, eh ben, on va lui baisser son salaire de 20%. Celui qui gagne entre 20 et 50 000, 30%. Celui qui gagne entre 50 000 et 100 000, 40%. Et celui qui gagne plus de 100 000, 50%. Et ensuite, les joueurs pourront récupérer, lors de la prochaine saison, a posteriori, la différence de salaire. Voilà ce qui a été décidé aujourd'hui.
Il y aura un étalement après.
Alors maintenant, il faut que le ministère de l'économie, le ministère de l'économie, donne son accord. Hein, pour ce que, quand il y a un étalement comme ça,
Il y a des accords. De toute façon.
Et Gilbert, parce que les présidents, effectivement, c'est eux qui ont parlé, mais les joueurs ont donné leur accord pour cette solution?
Philippe Piat.
Ils ont vraiment été concertés en amont?
Oui, Philippe Piat et leurs représentants, et il y a eu différentes réunions avec les joueurs. Donc,
De toute façon, je pense que là en effet, je vois pas un joueur se rebiffer, se rebeller un petit peu en disant attendez, c'est pas normal, parce que là ils laissent
à ceux qui gagnent. C'est même mieux que le chômage partiel pour eux. Puisque finalement, ils ont touché la totalité.
Ben oui, il laisse. Et c'est ce décalage, du moins cet échelonnement étalement là de salaire, c'est problématique pour beaucoup de clubs ou avec des joueurs qui gagnent en effet entre 5 et 15 000 euros. Et il y en a en Ligue 1. Alors tout le monde retient les salaires de Lyon, de Paris, de Monaco, et puis peu importe des gros clubs. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont dans cette tranche là aussi. Et pour eux, oui,
c'est, oui, et puis y a pas ça peut être problématique. Il y a la Ligue 2 aussi.
Oui, oui. Bah, et puis en Ligue 2, il y en a beaucoup plus. Hein. En Ligue 2, c'est la totalité sont en dessous de 20 000 euros. Hein. Donc il y a très peu de salaires au-dessus de 20 000 euros en Ligue 2.
Si, il y en a quand même. Aussi... La moyenne en Ligue 2, c'est quoi? C'est entre 15 et 20 000.
Je crois que c'est 12 000, 12 ou 13 000.
Non, Daniel.
Oh, elle a baissé alors.
En Ligue 1, c'est 30 000 et en Ligue 2, 12 ou 13 000.
Quoi? 30 000 en Ligue 1?
Oui, Daniel.
Mais encore 2 ans, elle était à 50 000 la moyenne?
Non, c'est 30 000. Hein.
Non, mais c'est quand même très étonnant que ça a baissé alors que les masses salariales ont augmenté partout.
Sur la masse, parce qu'en fait, sur la masse, tu sais, t'as plein de joueurs qui ont, t'as plein de clubs qui ont 25 joueurs sous contrat. Prends par exemple, je sais pas, Brest, Nîmes.
Je veux dire qu'ils ont étalé.
Voilà, Metz. En fait, c'est des clubs où tu as beaucoup plus de joueurs qui gagnent, qui ont des petits salaires que de joueurs qui ont. Tu vois ce que je veux dire? Donc
pendant des années,
j'ai
entendu que la moyenne en Ligue 1 était 50 000.
À un moment, elle était de 35.
À un moment, elle était de 50, je te le garantis. Après, s'ils ont signé de plus en plus de joueurs et que ça a fait baisser la moyenne, peut-être, ça, je sais pas.
Bon, voilà pour ce sujet, on a fait le tour, je peux passer à la suite.
Non, mais c'est bien qu'ils aient réussi à discuter, c'est très bien cet accord, il doit être content, Pierre, bravo.
Mais non, mais de toute façon, Daniel, on l'avait dit, dans tous les cas, c'était sûr qu'il allait se passer des choses. En France, on n'est pas plus con qu'ailleurs, du moins les joueurs ne sont pas plus con qu'ailleurs. Donc, dans le
foot, on m'a souvent montré le contraire, moi, mais bon.
Bah sur ces choses-là,
c'est pas forcément linéaire, effectivement. Daniel a raison.
Mais bon, écoute, l'important c'est que ça se fasse et félicitons-les, bravo.
Alors, je passe maintenant à la FIFA parce que la FIFA, alors hier ils ont dit oui, attention les contrats et tout. Autant aujourd'hui, ils ont pris une décision importante, même deux décisions importantes. Ils ont dit voilà, déjà concernant le mercato, la FIFA va autoriser chaque pays à fixer librement des dates d'ouverture et de fermeture de mercato. Voilà, sur le marché estival. Avec un seul critère qui devra être respecté, c'est que le mercato ne pourra pas durer plus de 16 semaines. Voilà ce que dit la FIFA. Donc après, ce sera à chacun de s'organiser. Parce qu'il dit sinon c'est trop compliqué. Donc on laisse cette latitude-là. Et puis concernant les prolongations de contrat au 30 juin, la FIFA a dit aujourd'hui, c'est très simple, on prolonge automatiquement si les championnats reprennent. Mais attention, si un joueur s'est déjà engagé avec un futur club au 1er juillet, eh bien, la FIFA, dans ces cas-là, explique que les parties devront trouver un accord et faire preuve de bonne volonté. Et la FIFA propose même que l'ancien club ait la priorité jusqu'à la fin du championnat. Vous voyez le concept ?
Je trouve que dans cette période compliquée, quand on discute de façon intelligente, non ?
Voilà ce que dit la FIFA aujourd'hui là-dessus.
Plutôt bien tout ça.
Mais ta période de mercato, 16 semaines, c'est quoi par rapport à quoi 16 semaines ? C'est la durée du mercato ?
La durée du mercato, exactement.
Mais 16 semaines, c'est énorme.
Bah oui, mais là, regarde le mercato. Oui, mais en fait, c'est ce qui se passe.
C'est 4 mois.
Là, normalement, le mercato, il fait quoi ? De début juin à fin août ?
Bah, donc, c'est 3 mois.
Oui, ça a jamais été 4 mois. Ça fait 12. Voilà, ça fait 12 semaines. Donc là, en fait, en gros, il y aurait une latitude un peu plus grande. Peut-être que les clubs, quand ils récupéreront de l'argent avec des différents, je ne sais pas, des contrats de
sponsor. Non, mais là, c'est 16 semaines en partant. Non, mais en partant du début juin ou ils le décalent comme ils veulent.
Chaque pays
va s'organiser.
D'accord. Fixer ses dates. Voilà ce que dit la FIFA aujourd'hui.
D'accord. Ah, putain, c'est énorme, ouais. Ouais, ouais. Ok.
Alors, maintenant.
Mais 16 semaines, c'est énorme.
Oui, en fait, c'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle fois, il y a certains pays où peut-être des droits télé vont être touchés plus tard, où il y a des contrats de sponsoring qui peuvent se signer sur le tard, donc ça laisse un peu plus de latitude au club, quoi. Moi, c'est plutôt intelligent.
Bah, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de décision, déjà, de savoir si les championnats arrivent à se finir avant le mois d'août, ou le mois de juillet, ou le mois de septembre, j'en sais rien.
Justement, Jérôme. On arrive à un problème parce que on constate quand même qu'il y a d'énormes disparités par ligue dans les volontés de reprendre. Je prends l'exemple, alors, l'Allemagne, on l'a expliqué hier, il y a beaucoup de clubs qui ont repris. Bon.
Ouais.
L'Espagne veut reprendre absolument fin mai. Voilà. Il y a d'autres pays qui disent non, on veut plus jouer, comme la Belgique. Et ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin, Olivier Véran, ministre de la Santé, a dit, question de Jean-Jacques, il a dit hors de question qu'il y ait des dérogations concernant les athlètes de haut niveau et les clubs de Ligue 1 quant aux règles de confinement. Voilà. Donc là, en l'état, c'est le ministère de la Santé qui le dit. Si demain un club veut se réunir, je sais pas, l'idée de Kita, là, rappelez-vous, d'il y a quelques jours, de dire on fait un camp d'entraînement fermé et tout, c'est niet. Voilà. Donc on voit que selon les pays,
les choses elles changent assez vite. Hein. Je veux dire, dans le traitement de cette crise, même les gens au gouvernement ont pu dire des choses une semaine et le contraire l'autre.
C'est vrai,
l'exemple le plus frappant étant, il faut surtout pas mettre de masque dehors. Et puis une semaine après, le masque est obligatoire dans plein d'endroits. Donc là, moi je regarde les Allemands qui traitent cette crise de façon que. Me semble très très bonne. Effectivement, eux, ils vont commencer à retourner à l'entraînement, à préparer. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire On va tous ressortir de la maison au mois de juin. Non, mais à un moment.
Comment tu fais si dans le mercato, tu te retrouves avec un décalage énorme entre les différents championnats?
Oui.
Ça va être compliqué, moi, je trouve aussi. Hein.
Exactement.
Non, mais en Allemagne, ils peuvent reprendre. Mais en Allemagne, ils testent tous les jours.
Voilà, si tu testes tous les joueurs, que tu t'assures de ne prendre aucun risque, que les mecs s'entraînent en groupe, comme dit Jérôme, bon, fin avril, combien de temps va durer le confinement, en Chine, la vie a repris là où la crise était la plus grave au monde. Bon, on va pas rester enfermé pendant 4 mois à la maison non plus. Hein, donc
Les Pays-Bas, ils disent, nous, on va reprendre le 19 juin. Donc, chacun fait son petit truc, en fait.
En fait, ça dépendra. Ouais. Je pense que ça dépendra, en effet, de la fin du confinement. Dès qu'on sera en déconfinement en France, je te parle, je pense que là, Véran aura eu un autre discours. Aujourd'hui, il dit, il y aura pas de dérogation en période de confinement. Bah, ça me paraît logique. De toute façon, tu vas pas dire, vous, les footeux, vous avez le droit de vous entraîner ensemble parce que vous êtes des footeux. Des sportifs de haut niveau et vous allez y aller, donc ça me paraît logique. Mais par contre, après, quand tu seras en déconfinement, je sais pas comment on arrivera à vivre. En effet, comme dit Daniel, peut-être que chacun aura un masque, peut-être qu'on sortira par petits groupes aussi, peut-être qu'il y aura des petites périodes à respecter aussi en restant à la maison. On ne sait pas. Par contre, qu'il y ait une dérogation à ce moment-là pour les footeux, pour qu'ils arrivent à reprendre avec un groupe normal, c'est-à-dire un groupe de 25 plus le staff, je pense que ça aura lieu. Et ça aura lieu, peut-être qu'en Allemagne, ils sont en avance en tout cas, mais pour l'instant, c'est que des groupes de 5 et que ça va aller crescendo et que tu verras que j'espère le plus tôt possible en Allemagne, ils reprendront assez vite avec un groupe de 25.
Alors, dossier suivant, les gars, et la fille, les pots de vin, selon le procureur américain, en l'occurrence, s'est exprimé la nuit dernière. Vous savez que l'affaire du FIFA Gate n'est pas terminée, il y a des rebondissements réguliers. Enfin, on a appris la nuit dernière.
Oui, dans les rebondissements, on n'a pas parlé de Gianni Infantino qui a commencé à être emmerdé par la justice sur la fameuse théorie, en l'occurrence, moi qui n'aime pas trop ce mot, du complot anti Platini, ça commence à prendre de la consistance quoi, quand même. Infantino, il a bien manœuvré en coulisses, ça commence un peu à se comprendre maintenant.
Tout à fait, alors c'est pas là c'est pas le sujet dont je voulais parler
ce
soir.
Non, c'est pas le sujet.
Mais donc le procureur fédéral de Brooklyn a expliqué la nuit dernière qu'il avait un document qu'il a publié montrant que des dirigeants de la FIFA ont reçu des pots de vin pour voter en faveur de la Russie et du Qatar pour l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022.
Mais on sait pas quel dirigeant.
Alors si, il parle par exemple de Jack Warner, vous savez le fameux Jack Warner.
Ah, le fameux Jack Warner.
Le plus corrompu du football mondial, celui-là.
Ah. Ouais, mais lui c'était mon ami, parce qu'il s'occupait des îles où j'ai envie d'être président.
Ah oui, là il est toujours rien. Alors, Jack Warner,
il s'occupait pas de... c'était la CONCACAF, lui.
Il était président de la CONCACAF.
Ah, c'est ma zone préférée, la CONCACAF.
Alors lui, selon le document du procureur de Brooklyn...
Et moi, je peux te dire qu'on m'achète tranquille pour le vote, pour la Coupe du Monde. Moi, je veux dire, on vient, allez hop, le vote, qu'est-ce que je m'en fous. Allez hop, on joue la Coupe du Monde, là. C'est parfait.
Allez, bam.
Paye-moi mon île.
Non, mais il y a des conneries, celui-là. Donc, Jack Warner, selon le procureur de
Brooklyn...
J'ai le
droit de dire que je peux être corruptible.
...a reçu 5 millions de dollars pour voter...
T'as la tête, en tout cas.
Il a reçu 5 millions de dollars pour voter pour la Russie.
Je suis Elliot Ness, moi.
Explique le procureur. Autre dirigeant du foot en Amérique du Sud, il s'appelle Salguero, ancien président de la Fédération du Guatemala. Alors lui, on lui aurait promis 1 million pour soutenir la Russie également. Et concernant le Qatar, là, on cite différents dirigeants, notamment des Brésiliens. Alors, Ricardo Teixeira, l'ex-président de la Fédé brésilienne. Léos, lui, il est paraguayen, c'est l'ancien président de la CONMEBOL, donc l'équivalent de l'UEFA pour l'Amérique du Sud. Eux, donc, auraient reçu des pots de vin de la part du Qatar. Voilà ce que dit donc le procureur fédéral de Brooklyn, qui ne donne pas plus de détails. Bon, enfin, les enquêtes judiciaires vont continuer. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde a nié. Le Qatar a totalement démenti, a dit attendez, c'est totalement faux, évidemment. La Russie, alors la Russie, eux, ils ont dit non, mais nous, on nie, non seulement c'est faux, on dément catégoriquement, et en plus, le porte-parole du Kremlin a dit de toute façon, en plus, on a organisé la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Donc, on est fiers. voilà, bon, ben, s'il a envie. Et là-dessus, Sepp Blatter, toujours dans la zone, hein, Blatter dit bon, non, il n'y a pas eu de pot de vin du tout. Tout ça était politique. Donc, indirectement, pam, il leur met une petite touche à Platini, puisqu'il dit on avait un accord général afin que ce soit 2018 Russie, 2022 États-Unis. Voilà. Sauf que derrière, il y a eu intervention politique pour que ce soit le Qatar. Sous-entendu, Sarko, la fameuse réunion avec Platini, etc.
Ça, on le sait.
Les accusations permanentes de Blatter qui reviennent c'est quand même terrible. Parce que cherchons, il y a eu, donc 2018, il y a doute. 2022, il y a doute. 2010, l'Afrique du Sud, il y a eu doute. Rappelez-vous le fameux gars de la Nouvelle-Zélande, là, qui a changé son vote au dernier moment, qui a voté pour la
Suède. Il y a eu doute dans tous les JO, dans toutes
dans
les
Coupes du Monde.
C'est l'histoire des compétitions.
En 2006, l'Allemagne, il y a eu doute.
Je
ne
dis pas que c'est bien, mais voilà.
En fait, c'est incroyable. Tu as l'impression qu'il n'y a pas une attribution qui se fait de façon limpide et sans histoire de corruption.
Mais tu tombes.
Il faut expliquer. Gilbert, le ménage. Avant de parler de ménage, il faut quand même comprendre que ceux qui veulent jouer les chevaliers blancs, comme ce procureur de Brooklyn, allez dire à un dirigeant. Alors, je ne vais pas citer de pays parce que certains vont le prendre mal. Je pourrais citer ma région comme ça d'origine, comme ça personne ne le prendra mal. Les différences culturelles dans ce qu'est un pot de vin, dans ce qu'est l'acceptation de vote pour moi parce que je suis sympa, parce que je t'ai invité 10 fois à dîner. Moi, je suis pas en train de dire que c'est bien. Attention, c'est pas ça que je dis. Les valeurs morales qu'on attribue et qu'on met derrière ce genre de choses là. Qu'est-ce qu'est un pot de vin? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est compliqué. L'uniformité, alors que tu fais voter 200 personnes dans le monde, 200 pays sur on va jouer la Coupe du Monde là, qui n'est pas en plus quelque chose de totalement vital au moment où le mec met son vote, ça lui semble pas comme ça. Mais même si tu vas par là, dans le cas de la France, hein, Sarko qui dit à Platini, dis-moi, pour notre business, c'est peut-être pas plus mal parce que... ils vont venir, ils vont mettre de l'argent dans notre économie. Et puis Platini, tu sais, Michel, hein, pour le foot français, les mecs, ils vont venir, ils vont arroser un peu tout le monde avec les droits télé, avec ceci, avec cela. Et Platini, il a dit, bon, ok, pas de problème. Il a même pas caché son vote.
Mais attends, Platini te dit qu'il a pas voté pour le Qatar parce que Sarkozy lui a demandé. Attention, faut être précis là-dessus. Il précise bien. Il dit, moi, je l'ai pas fait parce que Sarko m'a demandé. Je l'ai fait parce que j'étais convaincu qu'il fallait voter pour le Qatar.
Il a dit qu'il n'avait pas, en gros, au bout du compte, réellement de préférence entre tel ou tel pays, et qu'il trouvait ça bien d'aller dans une région où le football n'était jamais allé.
Voilà. L'argument numéro
mais
un.
Cette histoire du procureur de Brooklyn qui, tout seul dans son bureau, va aller dire le dirigeant uruguayen, argentin, nigérian, australien, néo-zélandais, il a fait ci en échange de ça. Cette uniformité des valeurs dans le monde, moi, je m'en méfie toujours un petit peu.
Non, mais je te comprends. Enfin bon, quand quelqu'un vient te voir en disant « je te file 1 million pour que tu votes pour moi », je veux dire, de n'importe quelle région que tu viennes dans le monde,
ça s'appelle de la corruption. Ça s'appelle de la corruption.
Voilà.
Oui, ben oui. Mais est-ce qu'il y a une loi mondiale? Donc il faut que ce procureur aille au bout et fasse entrer le mec qui a été corrompu dans le cadre d'une loi internationale pour ensuite le condamner. Ça va être compliqué, mais qu'il le fasse et qu'il réussisse à faire le ménage, comme tu dis. S'ils arrivent à faire le ménage, qu'ils fassent le ménage. Mais moi, la loi des cols blancs anglo-saxons, je m'en méfie toujours un petit peu, moi. Mais bon. Voilà.
J'ai Hugo qui me dit, Daniel, tu devrais demander à Jérôme de faire quelques tours de Porsche avec Jack Warner, peut-être qu'il pourra t'aider.
Warner, il est plus là, mais en plus il est mort, Jack Warner, non?
Le pauvre Jack Warner.
Il est mort en plus, non?
Écoute, je sais plus, j'ai un doute, effectivement.
Mais si, Jack Warner, il est mort, il me semble.
Oui, il est mort.
qu'est-ce que j'ai encore j'ai plein de messages sur j'ai plein de messages sur Neymar. Je vais vous en dire quelques-uns dans quelques instants. Mais juste avant, je voulais vous donner quand même une dernière info sur liée à Tottenham, parce que les fans de Tottenham ont publiquement demandé aujourd'hui à leur club. Tottenham est un club très riche.
Ils ont non, il est pas mort du tout, hein, Jacques Warner. Ne dites pas de bêtises, voyons.
Bah, c'est toi qui l'as dit. Il est fort, celui-là.
Et en plus, il est de Trinité-Tobago.
Oui, tout à fait.
Non, il va bien, il a 77 ans, il est en pleine forme, laissez-le tranquille. Hein.
Donc les fans de Tottenham ont publiquement demandé à leur club de renoncer à utiliser le chômage partiel. Et ils disent pourquoi ? Ils disent non, on est assez riche, nous on n'a pas besoin d'avoir une aide de l'État, disent-ils. C'est les supporters hein, qui disent ça à leur club. Donc ils disent n'endommagez pas encore plus notre réputation, on n'a pas besoin du fric de l'État, laissons-le pour d'autres priorités, on est assez riche, payez les joueurs. Voilà ce que disent les fans au club, à Tottenham. Mmh. Voilà.
Ouais.
Ça ne suscite pas de réaction, très bien. On va donc pouvoir faire une pause et retrouver Thibault Leplat dans quelques instants pour parler du football post-coronavirus dans quelques instants. Et si tout ça accouchait de choses positives sur les terrains de foot ? On va se poser la question dans quelques instants avec Thibault et on vous attend au 32-16 bien sûr pour débattre avec nous.
RMC, l'After Foot.